Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Pierre chapitre 5 et juste le verset 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a quelque temps, nous étions sur ce passage et nous avons parlé de l'humilité à travers la soumission. Et cette exhortation s'était adressée aux jeunes d'eux-mêmes. Ça veut dire, après qu'il s'adressait aux anciens, il s'adresse aux jeunes. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Donc, nous avons parlé de l'appel à l'humilité dans ce passage du verset 5. Et cet appel à l'humilité passe par la soumission. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la deuxième partie du verset 5. Et tous, soyez dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cette deuxième partie fait partie aussi de l'appel à l'humilité, mais cette fois-ci à travers l'habit de Marc. Et la marque de cet habit, c'est l'humilité que nous devrions tous porter en tant que croyants. Donc parlons aujourd'hui de cela, nous concernant en tant que chrétiens. D'abord, arrêtons-nous sur cette expression « revêtez-vous ». Dans le mot grec qui est à l'origine, ce verbe veut dire « ceindre ». Ceindre. Et cela évoque, si vous voulez, le geste de l'esclave qui s'entoure d'une espèce de tablier qui était attaché à la ceinture de la veste pour ne pas se salir pendant son dur labeur, d'où le mot cendre. Et l'usage de ce tablier distinguait les esclaves des hommes libres. Donc Pierre ici utilise cela en s'adressant à tous maintenant, non plus les jeunes, ni les anciens, mais à tous dans l'assemblée. Revêtez-vous d'humilité. Et on voit ici une allusion à ce geste de la part de Jésus envers ses disciples dans la chambre haute. Je vous invite à tourner votre Bible dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, versets 4 et 5. Où nous lisons, Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Vous voyez le verbe ceindre, je vous ai dit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc ici, Jésus se saint d'un linge, le tablier, comme je vous ai dit, le tablier d'esclave, pour laver les pieds de ses disciples. Et plus tard, quelques versets plus tard, il va leur demander d'agir aussi dans le même esprit. Quelque chose, un incident se passe. Pendant qu'il lavait les pieds de ses disciples, il arrive à l'apôtre Pierre. Et nous lisons verset 6, si vous avez toujours votre passage. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Je saute au verset 8. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Nous voyons par cet incident que Pierre était choqué. Parce que Jésus a renversé les rôles. Maintenant, c'est lui qui est le Seigneur qui lave les pieds de ses serviteurs en tant que disciples? Ah, ça ne passe pas pour Pierre. C'est inacceptable. Parce que Pierre pensait que Jésus ne devrait pas agir comme un serviteur envers sa personne. Vous savez, à l'époque, il faut avoir à l'esprit, hein, quand on parle ici de, au verset 13, quand Jésus répond envers Pierre, il dit, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » C'est très important de le mettre dans son contexte à l'époque, hein, que l'esclave était une personne, n'avait pas une personne juridique, ne possède rien, et son maître avait la maîtrise et le contrôle sur lui, pour sa vie et pour sa mort. Donc sa vie existait tout simplement pour répondre à l'exigence de son maître, pour être à sa disposition à tout instant. Et l'image que ça donne tout simplement, c'est que quand on accepte Jésus comme le Seigneur, mon maître, ça veut dire que j'accepte une vie de renoncement. Comme cet esclave qui est à la disposition de son maître, qui ne fait que ce qui lui était exigé de son maître. Ainsi aussi, le chrétien qui accepte sa position d'esclave de Christ, renonce à tout et accepte le sacrifice au quotidien pour vivre pour son maître. Mais revenons à ce que nous venons de parler tout à l'heure, Pierre qui refuse que le Seigneur, le maître, hein, le Seigneur lui lave les pieds. Et Jésus donc dit au verset 14 et 15, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Verset 15, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et donc, ramenons notre contexte dans 1 Pierre chapitre 5. Ici, Pierre était témoin de ce qui s'était passé. Il était un peu le centre de l'attention quand il refusait que le Seigneur lui lavait les pieds. Et il se rappelle, je pense, et là, il s'adresse à ces chrétiens, « Revêtez-vous d'humilité. » Et vous savez, l'apôtre Paul, je ne veux pas détailler ce passage parce qu'il y a de quoi à dire, attachez aussi le devoir de l'humilité chrétienne, toujours à l'exemple de Christ, comme Pierre fait ici pour ses chrétiens, quand il le demande de revêtez-vous d'humilité. Et je voudrais juste vous lire, vous n'avez pas besoin de regarder le passage, mais le devoir d'humilité chrétienne, attaché à l'exemple de Christ lui-même. Lui le Seigneur, devenu le serviteur. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez, par cet acte que Jésus manifestait envers ses disciples en leur lavant les pieds, il démontrait par ce geste la plus haute manifestation de ce que c'est l'humilité envers les autres. Revêtez-vous d'humilité. Métaphoriquement, quand on parle de se vêtir, se dévêtir, c'est pour ça que le titre que j'ai donné au message, hein, portant l'habit de Marc, une marque qui s'appelle l'humilité, que nous devrions porter, et bien cette expression se vêtir ou se dévêtir, c'est une métaphore qui correspond à un style de vie éthique qui doit caractériser chaque croyant. Parce que les croyants doivent porter les traits de caractère de Dieu. Et pour que cela puisse être possible, il faut qu'ils se débarrassent de tout esprit et de toute conduite qui peut empêcher que ces traits de caractère se reflètent dans nos vies. Ça, c'est se dévêtir pour se vêtir de cet habit. Je voudrais vous montrer juste quelques passages que cette métaphore, ce n'est pas uniquement ici qu'on le voit. La Bible en parle et je pourrais citer énormément de passages. Je vais prendre un juste dans l'Ancien Testament. Vous pouvez regarder Job 29, 14, où vous remarquez cette métaphore où l'habit est lié au trait de caractère qui doit être vêtu dans nos vies. Job 29, 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. Vous voyez, je me revêtais, je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. On aurait pu citer Psaume 109, verset 29, mais je passe. Mais Éphésiens chapitre 4, regardez votre Bible, au verset 4, après au verset 21 à 24. Éphésiens chapitre 4, verset 4, après 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Vous voyez l'instruction? À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et au verset 24, et à revêtir. Vous dépouiller, vous dévêtir, vous mettez de côté le vêtement sale, et maintenant, revêtir l'homme nouveau. Verset 24. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Maintenant, ayant vu le sens spirituel de cet impératif, revêtez-vous. Mais revêtir de quoi? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'objet avec lequel nous devons nous vêtir. La Bible parle ici, revêtez-vous d'humilité. Et alors, ça nous amène à nous poser la question, mais qu'est-ce que l'humilité? C'est toujours bien de dire d'abord ce qu'elle n'est pas, pour pouvoir définir ce qu'elle est véritablement. D'abord, l'humilité, ce qu'elle n'est pas, ce n'est pas une apparence d'humilité. Pourquoi je dis ça? C'est ce que le psychologue appelle aujourd'hui manque d'estime de soi. Si je peux utiliser cette expression. Donc, il ne s'agit pas de prétendre n'avoir que peu de valeur ou d'importance en se disant, oui, mais je suis nul. Quand on lui demande quelque chose, je suis bon à rien. Je ne sais rien faire. Oh, je n'y arriverai jamais. Mais vous savez, derrière cela, en fin de compte, se cache un moyen juste pour susciter des éloges. Si on dit à la personne, mais non, tu n'es pas nul, tu es quelque chose. Et tu sais, beaucoup vont envier les choses que tu sais faire, mais eux-mêmes qui n'arrivent pas. Et regarde toutes les capacités que tu as. Vous voyez, en fin de compte, il s'agit du pur orgueil, mais camouflé sous apparence d'humilité. Oh, je ne vaux rien. Mais cela suscite tout simplement les éloges pour manifester cet orgueil. Et vous savez, la Bible donne un exemple très clair de ça. En Colossiens 2, verset 18, ici, il parle de ces faux docteurs. C'est ce qu'on appelle les gnostiques à l'époque. Ici, et Paul s'adresse à l'Église pour le prévenir des dangers de cette doctrine, fausse doctrine. Et il leur dit, en caractérisant la vie de ces faux docteurs, ces faux enseignants, Colossiens 2,18, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Vous voyez, l'apparence d'humilité, c'est de l'orgueil. Mais il y a aussi l'autre aspect des choses, le contraire. Nous avons vu donc cette apparence d'humilité, mais il s'agit aussi, le contraire, cette prétention exagérée, paraître ce qu'on ne l'est pas. Mais en fin de compte, c'est pour cacher ses défauts, ses faiblesses. Et on prétend manifester ou montrer quelqu'un dont je ne suis pas. Vous savez, ça peut se manifester par le langage, ça peut se manifester par l'habit, ça peut se manifester par le comportement, ça peut se manifester même sur la fausse spiritualité, c'est ce que Paul reproche à ses faux enseignants gnostiques ici, n'est-ce pas? Voilà ce que n'est pas l'humilité. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'humilité? Étymologiquement, l'humilité est la traduction donc d'un composite de mots grecs qui signifie humble et aussi cœur. Deux mots pour traduire le mot humilité à l'origine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire tout simplement? On pourrait dire tout simplement que l'humilité est avant tout une attitude de cœur, une attitude intérieure. Parce que je vous ai dit, l'autre mot qui constitue le mot traduit humilité ici en grec, c'est le cœur ou l'être intérieur. Donc ici, nous pouvons dire que l'humilité est avant tout une attitude intérieure. Mais cette attitude intérieure, il va se manifester à l'extérieur par la façon de s'abaisser. Philippiens 2:3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc l'humilité se manifeste par la façon de s'abaisser. C'est-à-dire considérer son frère et sœur comme étant supérieur à soi, d'après ce que nous venons de lire. Mais l'humilité se manifeste aussi par la façon de s'oublier soi-même en pensant à l'intérêt des autres. Philippiens 2:4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'humilité nous permet, quand on perçoit un besoin autour de nous, de nos frères ou de nos sœurs, de nous mettre à leur disposition pour être une réponse à leurs besoins qui peut être pressant et présent. De toutes ces expressions, on peut résumer ainsi la définition de l'humilité. L'humilité est une attitude intérieure, nous avons vu, manifestée par l'abaissement de soi ou l'oubli de soi-même qui permettrait de servir les intérêts des autres avant les siens et je dirais le faire de bon cœur. Mais tellement le sujet est vaste, plusieurs facettes, n'est-ce pas, que pratiquement, on peut dire que l'humilité est avant tout une décision plus qu'une émotion. Je vous invite à regarder Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous, vous voyez encore la métaphore de s'habiller, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, et voilà notre sujet, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous d'humilité. Quel est le contexte de ce verset que nous venons de lire? Le contexte, tout simplement, c'est que l'apôtre Paul vient d'énumérer la position en Christ de ses auditeurs, à ceux à qui il s'adresse. Il vient de leur montrer ce qu'ils sont devenus en Christ. Je veux citer rapidement Colossiens 2:10. Il leur dit qu'ils ont tout pleinement en Christ. Colossiens 2:21, il dit, ils sont morts avec Christ. Colossiens 3:1, il dit, ils sont ressuscités avec Christ. Colossiens 3:3, leurs vies sont cachées avec Christ en Dieu. Et Colossiens 3:9, ils sont des élus de Dieu. Ça, c'est leur position, ce qu'ils sont devenus en Christ. Et alors, ainsi donc, sachant qui ils sont en Christ, vient l'exhortation ainsi donc, revêtez-vous d'humilité. Ça veut dire qu'il attend de leur part une obéissance en connaissance de cause qui sont ceux qui sont devenus en Christ, et cela incite à une décision personnelle à partir de la connaissance de leur position en Christ. Vous voyez, l'humilité est une décision volontaire plus qu'une émotion. J'aime beaucoup cette citation de André Muraille, où par sa définition on peut dire aussi que l'humilité est une force de caractère et non pas comme un signe de faiblesse comme beaucoup le pensent. Et même parfois il y a ceux qui le pensent que c'est un signe de lâcheté. André Muraille disait ceci: l'humilité c'est le repos parfait du cœur. Écoutez, ce n'est jamais être irrité, peiné ou déçu. C'est ne s'attendre à rien, ne s'étonner de rien qu'on puisse me faire. C'est être au repos lorsque personne ne me loue. Être au repos lorsque personne ne me loue. Ou qu'on me blâme et me méprise. Vous voyez la facette de l'humilité qui doivent nous caractériser dans notre quotidien comme cet habit de marque. Et la marque s'appelle humilité. Mais pourquoi faut-il de l'humilité? Notre passage, revenons toujours à notre passage, 1 Pierre 5, verset 5. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Pourquoi faut-il de l'humilité? Selon ce verset, l'humilité est indispensable pour des rapports harmonieux. Dans l'Église ici, entre tous, c'est-à-dire jeunes ou anciens, anciens au vu de leur fonction, ou anciens parce qu'ils sont plus âgés. Rapport harmonieux entre hommes ou femmes, riches ou pauvres, et on peut rajouter tout ce qu'on veut. Ça, c'est l'importance de l'humilité pour un rapport harmonieux au sein de l'Église locale auquel il s'adresse. Mais par ailleurs, l'humilité, au verset que nous venons de citer, Philippiens 2, verset 3, est aussi l'antidote, je dirais, pour éviter tout esprit de parti ou de clan et pour éviter la division dans l'Église locale. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Pourquoi faut-il de l'humilité? Parce que l'humilité, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas inscrit dans nos gènes. C'est un trait de caractère qui vient d'en haut. C'est le fruit de l'esprit. Pourquoi faut-il de l'humilité? Parce qu'il faut du courage pour être humble. Vous savez, dans la société, ce n'est pas une qualité qui est prisée. Et peut-être même considéré comme signe de faiblesse, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, ou de lâcheté. Oh, pourquoi faut-il de l'humilité? Parce qu'il faut de l'humilité pour admettre son tort. Souvent, et ça m'arrive, de chercher tous les arguments possibles pour montrer que j'ai raison et avoir toujours le dernier mot. Mais il faut de l'humilité pour admettre son tort, sans se justifier. Il faut de l'humilité. Pourquoi? Pour résister à tout ce qui peut susciter la colère ou l'irritation en nous. La Bible traite de cela. Quand il parle de la relation entre les pères avec leurs enfants. Et par ailleurs, aussi, le rapport entre frères et sœurs. Je sais bien quand il faut que je demande pardon à tel frère ou à telle sœur. Oh, mais je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas le faire. Parce que ça, c'est un obstacle à mon orgueil. Mais il faut de l'humilité pour vouloir de bon cœur obéir à la parole de Dieu et pardonner ou demander pardon. Je cite 1 Pierre 4, 16 tout simplement. Pourquoi faut-il de l'humilité? Pierre dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Oh, il faut de l'humilité pour accepter et vivre cela quand le Seigneur le permettra dans notre vie. N'aie pas honte quand je souffre, peut-être en m'humiliant à cause du nom du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, l'humilité est une vertu chrétienne. Ce n'est pas inscrit, comme j'ai dit, dans nos gènes. Hein, mais c'est quelque chose qui vient d'en haut, le trait de caractère de notre Dieu. Et il veut que nous nous revêtions de ce trait de caractère pour lui ressembler. Comme dit l'expression, tel père, tel fils. Oh, que nous puissions l'être à l'image de ce qu'est notre Père céleste. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais l'humilité, c'est l'opposé de l'auto-affirmation et de l'orgueil égocentrique. Nous avons vu, revêtez-vous, cette expression, ce qui signifie, nous avons vu de quoi devrions-nous nous revêtir. Et maintenant, nous traitons la dernière partie. Pourquoi nous devons être motivés pour nous vêtir de ce vêtement de marque qui s'appelle l'humilité. Verset 5, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ici, j'aimerais attirer bien votre attention, je dirais c'est le fondement biblique de la base du gouvernement de Dieu dans l'univers. Je répète, c'est le fondement biblique de la base du gouvernement de Dieu dans l'univers. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce passage? Il s'agit d'un passage tiré dans Proverbes chapitre 3, verset 34. Il est cité ici par Pierre, mais il est cité par ailleurs à titre d'information dans Jacques chapitre 6 aussi. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ici, c'est l'argument de base pour l'appel à l'humilité. Retenons le principe dans ce gouvernement, le principe biblique qui est à la base de ce gouvernement de Dieu dans l'univers ici. D'abord, je veux dire trois choses, et ça c'est important de le comprendre et le retenir et le vivre, parce que Dieu agit ainsi. Il faut le savoir. Dieu fait la différence entre l'orgueilleux et l'humble. Dieu résiste aux orgueilleux d'une part, il fait grâce aux humbles. Donc, il fait bien la différence entre l'orgueilleux et l'humble. Il est dit, il résiste aux orgueilleux, c'est-à-dire, il combat contre celui qui se voit autosuffisant, pour celui qui veut se détacher de l'autorité de Dieu dans sa vie. Il combat, il s'oppose en comme une bataille contre celui qui est orgueilleux. Il fait grâce aux humbles, ça veut dire qu'il bénit celui qui compte sur la provision de Dieu. Troisième chose, ce principe de gouvernement de Dieu dans l'univers se manifeste par, vous voyez dans le verset, son jugement et sa grâce. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Très important de retenir cela, que Dieu fait la différence entre l'orgueilleux et l'humble. Il résiste aux orgueilleux, ça veut dire qu'il combat contre celui qui se voit autosuffisant. Il fait grâce aux humbles, il bénit celui qui compte sur la grâce de Dieu dans sa vie. Et le principe de gouvernement de Dieu se manifeste par son jugement, mais en même temps, par sa grâce. J'aimerais, avant d'aller plus loin, donc, vous rappeler ici, donc, d'un côté, Dieu se dresse ou se range en bataille contre l'orgueilleux, et par ailleurs, nous apprenons aussi qu'il abaisse ceux qui sont orgueilleux. Mais de l'autre côté, il fait grâce à celui qui est humble et élève ceux qui s'humilient. Et j'aimerais vous démontrer bibliquement l'évidence de ce principe. Comment Dieu gouverne l'univers. Je vais vous le démontrer par quelques passages bibliques parmi tant d'autres. Regardez psaume 18, verset 28, rapidement, si vous l'avez sous vos yeux. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Regardez bien, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Toujours quand on étudie un passage, regardez, mais de quoi parle-t-on? Dans son contexte. Et ici, l'auteur c'est David, et dans ce psaume, vous le lisez chez vous, après avoir décrit la délivrance de Dieu, des dangers qui menaçaient sa vie. Maintenant, il rappelle dans ce passage la manière comment Dieu gouverne ce monde et comment il a vu ce gouvernement de Dieu dans sa propre vie. Son expérience, il a tiré cet enseignement. Il sauve le peuple qui s'humilie. C'est quoi? C'est la manifestation de sa grâce. Il dit, il abaisse les regards hautains. C'est quoi? C'est la manifestation de son jugement. C'est ce que nous venons d'énumérer tout à l'heure, les points importants sur ce principe. Je voudrais que vous cherchiez Amos. Amos chapitre 6, verset 8. Encore un deuxième passage. Pour démontrer l'évidence que Dieu agit ainsi dans le gouvernement de l'univers et dans notre monde. Amos 6:8, le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit, « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais, je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. » Mais de quoi parle-t-on? Regardons toujours les contextes. Ici, Dieu a révélé à son prophète Amos qu'il va juger Israël à cause de ses péchés. Et vous savez, pour manifester sa grâce, parce qu'on avait dit, ce principe de gouvernement s'applique dans ce principe de gouvernement, sa grâce et son jugement. Et donc, par grâce, il a fait trois appels à ce peuple de se détourner de leur mauvaise voie. Au chapitre 3, nous n'allons pas le lire. Premier appel à écouter. Au chapitre 4, vous pouvez le lire chez vous, il va faire un deuxième appel. Et ici, il vise tout particulièrement les femmes riches de Samarie qui opprimaient les indigents et qui vivaient dans leur luxe avec tant d'orgueil. Et encore, au chapitre 5, un troisième appel où cette fois-ci, le prophète se lamente sur la chute imminente d'Israël et appelle le peuple à chercher l'Éternel pour qu'il puisse vivre. Et voilà notre passage, verset 6, chapitre 6, verset 8, où c'est un deuxième malheur qui était annoncé par le prophète à cause de leur autosatisfaction, leur confiance dans le luxe et leur sécurité. Je relis encore, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Vous voyez, ils étaient tellement fiers de ses palais, de leur luxe. Et Dieu dit, je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme, le jugement. Oui, après ces trois appels à écouter Dieu par l'avertissement du prophète Amos, qui manifestait sa grâce, ces appels, n'est-ce pas? Le peuple n'a pas répondu. Et Dieu va exécuter son jugement à leur indifférence, à cette attitude d'autosatisfaction pour leur luxe, pour leur richesse, pour leur bien. Et qui prenaient cela comme source de leur sécurité. Il n'est pas loin, hein, aujourd'hui, il en est de même pour beaucoup des gens dans ce monde. Pas besoin de Dieu. Je me suffis à moi-même. Je me faisais moi-même. Si je suis là, c'est grâce à moi, oh Dieu. Il ne compte pas. On verra plus tard. Et le jugement était arrivé après avoir entendu trois appels pour manifester sa grâce. Je citerai encore un troisième verset, Proverbe 6, verset 1. Il y a six choses que hait l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur, en dégoût. Et nous lisons verset 17, les yeux hautains. Après, il cite la langue menteuse, je laisse. Au verset 17, l'orgueil est désigné comme la première des sept abominations que Dieu a en horreur. Et si vous lisez Proverbe 16:5, ses yeux hautains, ce regard orgueilleux, et va subir le jugement de Dieu comme ce que mérite l'adultère, comme ce que mérite le faux témoignage en Proverbe 19:5 et l'adultère, Proverbe 6:29, pour ainsi dire que Dieu a un dégoût à cette attitude orgueilleuse. Un dernier passage pour montrer l'évidence encore de ce principe que j'ai évoqué, Ésaïe chapitre 2. Cherchez votre Bible, Ésaïe chapitre 2. Je vous fais parcourir beaucoup de passages. Ésaïe chapitre 2, juste versets 6 à 8. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et a donné à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Verset 7, le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Verset 8, le pays est rempli d'idoles, et ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Verset 9, les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Verset 11, l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Et au verset 12, on parle d'un jour encore futur, de manière prophétique, car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Et au verset 17, l'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Quel est le contexte de ce passage? Toujours regardez le contexte. Ici, Dieu s'adresse à son peuple par le biais de son prophète Ésaïe, et rappelle à Juda les péchés qui attiraient le jugement de Dieu à leur égard. Quels étaient ces péchés? C'est mentionné de ce que nous venons de lire. Au lieu de faire confiance à Dieu pour leur avenir, ils consultaient les devins de l'Orient. Et ça donnait, au verset 6, à la pratique de la magie, comme les Philistins. Nous lisons verset 6 aussi, ils ont conclu des alliances que Dieu a interdit les alliances avec les nations étrangères, le peuple étranger. Nous lisons au verset 7 qu'ils se sont amassés des trésors, des chevaux, des chars innombrables et ont compté sur ces choses pour garantir leur sécurité. Et cela, il connaît les Écritures, c'est en désobéissance flagrante de la loi de Dieu. Ils ont adoré les idoles et fabriqué eux-mêmes de leurs mains, verset 8, n'est-ce pas? Et voilà, pour toutes ces raisons, Dieu, le jugement de Dieu, va leur tomber dessus. Et au verset 11, le prophète s'adressant au peuple le met en garde contre le danger de vouloir éviter la terreur de la colère divine qui abaissera l'homme au regard hautain. Je vous ai dit à partir du verset 12, c'est encore l'accomplissement total de ce verset, ça sera le jour du jugement futur où le Seigneur Jésus sera le juge avant d'établir le règne de terrestre de 1000 ans ici. Et ce qu'il faut remarquer pour ces jugements futurs, c'est que ce qui attirera encore pour le futur, si vous avez bien remarqué au verset 12, soulignez-le, le jugement de Dieu va tomber à cause de l'arrogance humaine qui s'appuiera sur ses défenses militaires. Vous voyez, verset 15, les hautes tours contre les murailles fortifiées. Ils vont faire confiance et s'appuyer sur leur défense militaire et ils deviennent arrogants. Au verset 16, ils vont s'appuyer sur leur puissance commerciale avec ses flottes marchandes, les navires de Tarsis, verset 16. Vous savez, on voit dans tout cela que Dieu a horreur l'orgueil, mais il fait grâce à celui qui est humble et qui s'humilie. Et vous savez, ici parlons dans ce passage de Ésaïe, en ce jour-là, quand Dieu va juger, avant d'établir par son Fils le règne terrestre de 1000 ans, ce qui fera l'objet de leur arrogance, ce qui fera l'objet de leur sécurité, sera balayé en instant, et que l'Éternel seul sera élevé. Ce que nous venons de lire. Donc vous voyez encore l'application de ce principe à l'échelle du pays, des nations, des peuples. Mais maintenant, j'aimerais juste vous montrer encore l'illustration en s'intéressant juste à la vie d'une personne. Nous venons de voir l'application de ce principe dans une nation, un pays, un peuple. Mais regardons qui s'applique aussi dans la vie d'une personne. J'aurais pu citer Pharaon, j'aurais pu citer Goliath, j'aurais pu citer Naaman, Amon, mais j'aimerais juste m'arrêter sur Nebuchadnezzar. Lui, c'est représente la sommité de l'orgueil. Et regardons donc l'application de ce principe illustré dans la vie de Nebuchadnezzar. Regardez Daniel chapitre 4, verset 4, les circonstances dans lesquelles se trouvait ce roi. Vous avez Daniel chapitre 4, verset 4, « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. » J'attire votre attention sur ces deux choses. Ah, je vivais tranquille et j'étais heureux. Quoi de mal? Ici, par tranquille, il veut dire ah, j'étais dans une situation confortable. Oh, je suis satisfait, content de ma vie, de mes réalisations. Par heureux, peut-être il veut dire je suis prospère, je suis fortuné. Oh, je suis maintenant influent, riche. En un mot, en notre langage aujourd'hui, tout va bien pour lui. Pas de problème. Pas d'embêtement, ni de souffrance. Et vous savez, Nebuchadnezzar aussi représente de nos jours beaucoup de personnes insouciantes qui s'abritent sous une fausse sécurité de par leur réalisation, leur statut social peut-être, leur compte en banque, leur bonne santé, leur réussite, on peut continuer. Mais ce que ces personnes et ce que Nebuchadnezzar a ignoré, c'est que cette vie en apparence prospère est en réalité éphémère et illusoire. Il va se rendre compte de cela rapidement. Et regardez, lui qui se disait « je suis tranquille, peinard, je suis heureux dans mon palais ». Tournez votre Bible au verset 30. Pendant qu'il fait passer en revue toutes ses réalisations, il nous est dit, le roi se promenait dans son palais et il vantait ses réalisations. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Verset 31 du chapitre 4, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel, apprends roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. En un instant, il va perdre tout ce qui faisait de son orgueil, son royaume, son intelligence, jusqu'à ce qu'il va retrouver la raison saine. Et pourtant, la manifestation encore de la grâce de Dieu, comme je vous ai dit, dans ce principe, d'un côté la grâce de Dieu, mais aussi le jugement de Dieu. Manifestation de la grâce de Dieu, vous savez qu'il avait eu beaucoup d'occasions, le roi Nebuchadnezzar, de s'humilier devant Dieu, le Dieu des cieux. Lorsque Daniel a interprété son rêve de la statue au chapitre 3 de Daniel, au chapitre 2 de Daniel, lorsqu'il a vu de manière surnaturelle Dieu délivrer trois Hébreux dans la fournaise ardente, chapitre 3, tout ça c'est une occasion qu'il a vue de ses yeux qu'il devrait s'humilier devant le Dieu des cieux. Et ici, dans notre chapitre 4, lorsque Dieu interprète son rêve au sujet de ce grand arbre. Daniel 4, 17, Dieu avait averti par sa grâce quand il lui révélait la signification de ce songe qu'il avait dans notre chapitre 4. Le but, verset 17 du chapitre 4, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Après ces maintes avertissements, ces maintes occasions de s'humilier, est-ce qu'il a saisi les opportunités? Mais non. Il réagit comme la plupart des gens aujourd'hui. « Oh, j'y penserai plus tard. Oh Dieu, on verra ça plus tard. Oh, je ne suis pas prêt. Je suis tellement préoccupé par mes affaires. Je n'ai pas le temps. » Et vous savez, vous lisez qu'au bout de 12 mois d'attente, Dieu dit « Trop tard, mon ami. » Et nous lisons ceci au verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Ici, ceux qui méprisent la parole de Dieu se disent, mais ce n'est pas possible. Ici, le roi se trouve affligé d'une sorte de démence mentale que les scientifiques aujourd'hui appellent la boanthropie. Vous pouvez chercher ça. La boanthropie, tout simplement, c'est ce handicap qui amène la personne à croire qu'elle est un bœuf. Oui. Il est atteint de cela, Nebuchadnezzar. Et nous lisons au verset 37 qu'après 7 ans, nous dit la parole de Dieu, maintenant il réalise. Mais maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Oh, il a fallu passer par là pour réaliser et comprendre et admettre le principe que Dieu met en place pour gouverner l'univers et le monde dans lequel nous nous trouvons. Oui, Nebuchadnezzar en personne réalisait maintenant que Dieu domine sur le règne des hommes. Il reconnaît par là sa souveraineté. Et surtout, il réalisait que Dieu abaisse ceux qui marchent avec orgueil. C'est-à-dire, il reconnaît, en d'autres mots, le mode de gouvernement de Dieu dans l'univers, y compris l'univers individuel des personnes, pour chacun de nous. Je veux m'arrêter bientôt, mais juste, j'ai cité beaucoup de passages dans l'Ancien Testament pour mettre en évidence ce principe. J'aimerais juste citer Luc dans le Nouveau Testament, chapitre 1, verset 51-53. Luc, chapitre 1, verset 51-53, où nous lisons ceci. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Verset 52. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. 53, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons ici que Dieu a l'habitude de faire échouer la vie des orgueilleux et de faire décevoir leurs espoirs et leurs intentions, comme il est bien stipulé ici. Mais qu'est-ce qui caractérise, d'après tout ce que nous avons vu, l'orgueilleux? Vous savez, l'orgueilleux, il se démarque par cet esprit d'indépendance, par le refus de toute autorité, même celui de Dieu. C'est ce qui s'était passé dans les cieux, quand Dieu a créé les anges. Il nous est dit dans Ésaïe 14, versets 13 et 14, en parlant de cet ange Lucifer, « Tu disais en ton cœur, retenez 5 fois le « je ». Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel ». J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est ce qui caractérise l'orgueil. Le je. Et vous savez, dans l'avenir, je ne sais pas quand, lors, avant la grande tribulation, il nous est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, en parlant de l'Antichrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple. Le temple ici, Naos, c'est le lieu très saint. Il va s'asseoir jusque dans le lieu très saint en se proclamant lui-même Dieu. Il est l'incarnation de l'orgueil dans sa sommité. Satan. Oui, nous avons vu l'aspect Dieu abaisse les orgueilleux dans ce principe, mais j'aimerais encore dans le Nouveau Testament vous montrer bibliquement que Dieu élève ce qui s'est humilié. Et quel exemple suprême, c'est celle du Seigneur. Regardez Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, rapidement. Il s'est humilié lui-même, vous voyez, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, vous voyez, s'est humilié, élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et oui, dans ce principe, Dieu élève à son temps celui qui s'humilie. Christ, pour nous sauver, est descendu en quittant la gloire qu'il avait au ciel depuis toute éternité, a mis tout cela de côté, venir, devenir un homme, mourir sur la croix. C'est la mort la plus infâme, la plus humiliante. Mais ceci, c'est le summum de l'humiliation, tout simplement à cause de nous, nos péchés. Et il a parcouru ce chemin pour moi, pour vous. Et en conséquence, Dieu l'a ressuscité et Dieu l'a élevé et lui a placé en lui donnant le nom qui est au-dessous de tout nom. Le Seigneur, à qui un jour tout genou fléchira devant lui. Chers frères et sœurs, peut-être pas beaucoup de commentaires, il est clair que ce principe, nous le voyons partout d'après ces illustrations. Et nous devrions nous en revêtir de ce bel habit qu'est l'humilité si nous voulons que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies, sa bénédiction dans nos vies. Par contre, si nous résistons, nous risquons très fort d'être châtiés par notre orgueil. Réfléchissons à deux fois. J'anticipe, ça sera le dernier message sur ce sujet, 1 Pierre chapitre 5, pour la prochaine fois. J'anticipe pour le plus tard. N'oubliez jamais que Dieu a pourvu un moyen, si vous peut-être aujourd'hui passez par la souffrance. C'est un des moyens que Dieu se sert pour nous humilier devant lui, pour que nous puissions accéder à l'humilité. C'est un des moyens que Dieu utilise. Et c'est utile pour notre bien, pour que nous puissions être caractérisé, revêtu de l'humilité. Juste deux versets. Psaume 107, versets 11 et 12. Parce qu'il s'était révolté contre les paroles de Dieu et parce qu'il avait méprisé les conseils du Très-Haut, il humilia leur cœur par la souffrance. Dieu se sert de ce moyen pour nous humilier, pour que nous puissions accéder à l'humilité par cette humiliation. De Corinthiens 12, 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Que Dieu, par sa grâce, nous fasse réaliser pour que nous admettions ces principes dans nos vies et c'est ainsi que nous nous ressemblions à notre Père céleste, que nous nous revêtions du trait de caractère